L'abbé Prévost a mené une vie aussi romanesque que celle de ses personnages. Une existence marquée notamment par des démêlés avec la justice et par l'exil. L'écrivain est en effet contraint de fuir la France après la publication de Manon Lescaut en 1731. Un roman condamné par les autorités religieuses, mais qui rencontre immédiatement le succès auprès du public. Manon Lescaut, septième tome d'un ensemble plus vaste intitulé « Mémoires et aventures d'un homme de qualité », est une œuvre qui interroge la force des passions. Renoncourt, le narrateur premier, y cède la parole à Desgrieux, le narrateur second, pour laisser entendre une voix marquée par l'émotion raconter sa propre aventure. La rencontre avec une jeune femme, Manon, la passion irraisonnée pour celle-ci et la fatale conclusion de cet amour. Le passage à commenter prend place au terme d'une période qui constitue une parenthèse heureuse pour les protagonistes. Mais alors que Desgrieux et Manon connaissent quelques semaines d'amour sans nuages, l'entrée en scène du fils de G.M. qui les a conduits en prison laisse présager le pire, d'autant que les amants veulent se venger du père sur le fils. Nous vîmes paraître son carrosse vers les 11h. Il nous fit des compliments fort recherchés sur la liberté qu'il prenait de venir dîner avec nous. Il ne fut pas surpris de trouver M. de T. qui lui avait promis la veille de s'y rendre aussi, et qui avait faim quelques affaires pour se dispenser de venir dans la même voiture. Quoiqu'il n'y eût pas un seul de nous qui ne portât la trahison dans le cœur, nous nous mîmes à table avec un air de confiance et d'amitié. G.M. trouva aisément l'occasion de déclarer ses sentiments à Manon. Je ne dus pas lui paraître gênant, car je m'absentais exprès pendant quelques minutes. Je m'aperçus, à mon retour, qu'on ne l'avait pas désespéré par un excès de rigueur. Il était de la meilleure humeur du monde. J'affectai de le paraître aussi. Il riait intérieurement de ma simplicité et moi de la sienne. Pendant tout l'après-midi, nous fûmes l'un pour l'autre une scène fort agréable. Je lui ménageai encore avant son départ à un moment d'entretien particulier avec Manon, de sorte qu'il eut lieu de s'applaudir de ma complaisance autant que de la bonne chère. Aussitôt qu'il fut monté en carrosse avec M. de T., Manon accourut à moi les bras ouverts et m'embrassa en éclatant de rire. Elle me répéta ses discours et ses propositions sans y changer un mot. Il se réduisait à ceci, il l'adorait. Il voulait partager avec elle 40 000 livres de rente dont il jouissait déjà, sans compter ce qu'il attendait après la mort de son père. Elle allait être maîtresse de son cœur et de sa fortune. Et, pour gage de ses bienfaits, il était prêt à lui donner un carrosse, un hôtel meublé, une femme de chambre, 3 laquais et un cuisinier. « Parlons de bonne foi, » ajoutai-je. « Cette offre, ne vous tente-t-elle point ?»« Moi ? » répondit-elle, en ajustant à sa pensée 2 verres de racine. « Moi ? Vous me soupçonnez de cette perfidie ? Moi ? Je pourrais souffrir un visage odieux qui rappelle toujours l'hôpital à mes yeux ?»« Non, » repris-je en continuant la parodie. « J'aurais peine à penser que l'hôpital, madame, fût un trait dont l'amour l'eût gravé dans votre âme. » Cette petite scène de comédie qu'ils inventent fait suite à celle qu'avait imaginée Manon pour se moquer d'un prince italien. Mais le dénouement n'en sera pas aussi heureux. Nous nous demanderons ainsi comment cet épisode parvient à mêler comique et tragique. Nous verrons d'abord que le premier paragraphe s'apparente à une scène de comédie, mais que l'ombre de la tragédie plane sur tout le second. Intéressons-nous donc d'abord à la scène de comédie qui occupe tout le premier paragraphe. Le passage met en scène une succession d'actions rapides et distrayantes. Desgrieux raconte que Manon et lui-même virent paraître le carrosse du fils de G.M. vers les 11h, puis que tous se mirent à table, enfin qu'il ménagea encore à son ennemi, avant son départ, un moment d'entretien particulier avec Manon, pour mieux mettre au point son subterfuge. L'emploi du passé simple et des marqueurs temporels insiste sur la vivacité de la scène et traduit une certaine gaieté. La complicité des amants, qui tendent ici un piège à leur ennemi, est soulignée par l'opposition constante entre les marques de première et de deuxième personne. Par exemple, dans les expressions « nous vîmes paraître son carrosse » ou « il nous vit ». Le paragraphe est envahi par le champ lexical de la dissimulation et du spectacle. Il y a une véritable mise en abîme. En effet, chacun porte la trahison dans son cœur, lit-on dans les premières lignes du texte. Monsieur de T, le complice de Manon et des Grieux, feint quelques affaires pour se dispenser de venir dans la même voiture que le fils de G.M. Tandis que des Grieux affecte d'être de la meilleure humeur du monde. Bref. C'est une scène fort agréable dans laquelle les personnages jouent un rôle. Tous sont donc gagnés par le jeu, au sens ludique et théâtral à la fois. L'opposition entre vérité et mensonge est explicitement soulignée par l'antithèse « Quoiqu'il n'y eût pas un seul de nous qui ne porta la trahison dans le cœur, nous nous mîmes à table avec un air de confiance et d'amitié », remarque en effet des Grieux. Mais ce thème de la duplicité relève pour le moment du vaudeville et confère encore à l'extrait une impression de gaieté et de légèreté. En témoigne le lexique du plaisir, meilleure humeur du monde, il riait, il eut lieu de s'applaudir, mais aussi les longues cadences des phrases aux nombreux points-virgules de la fin du paragraphe, signe de l'élan, de la fougue des personnages et de la bonne humeur qui prévaut encore. Dans ce premier paragraphe, les personnages se jouent donc les uns des autres dans une scène aux allures de comédie, orchestrée par des amants complices. Passons à présent à l'étude du second paragraphe. Ce deuxième temps de notre explication correspond à un changement de registre, puisque l'ombre de la tragédie plane sur la fin de l'extrait. Manon explique elle-même à Desgrieux que la générosité de G.M. attend à être payée en retour de son amour. Le parallélisme « elle allait être maîtresse de son cœur et de sa fortune » annonce un engrenage tragique. Manon est en effet grisée par les biens matériels et l'argent. Les accumulations et le champ lexical de l'argent traduisent son vertige lorsqu'elle annonce d'un air triomphant que G.M. voulait partager avec elle 40 000 livres de rente dont il jouissait déjà, sans compter ce qu'il attendait après la mort de son père, et qu'il était prêt à lui donner un carrosse, un hôtel meublé, une femme de chambre, 3 laquais et un cuisinier. Si Desgrieux, narquois, répond ironiquement que le fils est bien autrement généreux que le père, la comparaison invite à rapprocher les situations et rappelle par analepse le passé douloureux. La mise en perspective des deux aventures laisse donc attendre le pire. Plus grande sera la générosité de l'amant trompé, plus grande sera la punition des jeunes gens. La comparaison fonctionne comme un avertissement funeste que Manon ne parvient pas à entendre vraiment. La jeune femme répond aux craintes des Grieux en ajustant à sa pensée 2 vers de Racine. Moi, vous me soupçonnez de cette perfidie, moi, je pourrais souffrir un visage odieux qui rappelle toujours l'hôpital à mes yeux, demande-t-elle à son amant au moyen de questions rhétoriques qui veulent témoigner de son assurance à ne pas céder au chantage de G.M. Pourtant, la scène 5 de l'acte 2 d'Iphigénie a beau être parodiée, elle n'en demeure pas moins un mauvais présage qui fonctionne comme une prolepse. En reprenant pour sa défense 2 vers de Racine qu'elle réécrit à sa guise, Manon ne peut s'empêcher d'inscrire cet épisode sous le signe funeste de la tragédie. Ce deuxième paragraphe aura montré que Manon, malgré son amour pour Desgrieux, reste ambiguë, car sa fascination pour les plaisirs et les biens matériels augure de nouveaux malheurs. En conclusion, nous pouvons retenir que le passage, placé sous le signe de la mise en abîme, raconte d'abord la comédie imaginée par les amants pour duper leur adversaire et s'emparer de ses biens. Si leur plaisir est alors comparable à celui que goûte le lecteur, ce sont rapidement de funestes présages qui colorent, appuyés de la référence à Racine, la scène d'une tonalité tragique en annonçant les futurs malheurs du couple. Si Manon n'est pas la vertueuse Iphigénie, elle sera pourtant, elle aussi, sacrifiée par les pères.